Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manilakiza en direct de la capitale américaine, jeudi 7 février 2019. Le monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. D'abord le sommaire. Au Bénin, la justice condamne à 10 ans de prison ferme les responsables du scandale financier dans l'affaire dite Madoff à la Béninoise. En Centrafrique, rien ne filtre sur le contenu de l'accord de Khartoum entre le gouvernement et les groupes armés.
On ne peut que spéculer parce qu'on nous cache le contenu de cet accord, ce qui n'est pas normal.
Au Tchad, la colonne rebelle est complètement détruite selon le président Idriss Déby Itno. C'est la discorde entre la France et l'Italie. Paris a rappelé son ambassadeur pour consultation. Aux États-Unis, le président Donald Trump dénonce un harcèlement sans fin après l'annonce d'une enquête démocrate sur ses finances. Et vous suivrez l'actualité économique et les sports. Mais d'abord, le journal. En Centrafrique, la pression monte pour exiger la publication de l'accord de paix signé hier à Bangui entre le gouvernement et 14 groupes armés qui contrôlent la majorité du pays. Cet accord a été conclu et paraphé mardi à Khartoum sans que son contenu ne soit dévoilé. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Maxime Kazaghi, a déclaré que le document ne peut être publié avant que tout le monde ait signé. Le groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine a appelé la population à sortir massivement dans la rue pour exiger sa publication. Cet accord, c'est le 8e depuis le début de la crise en 2013. Les 7 précédents accords de paix n'ont jamais été respectés. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Le président tchadien Idriss Déby Itno a affirmé que la colonne de mercenaires entrée dans le nord du Tchad, récemment depuis la Libye voisine, a été complètement détruite. Les précisions de Abdourahmane Dia.
C'est en conseil des ministres ce jeudi que le président Idriss Déby a annoncé la nouvelle. Le compte-rendu précise qu'aucune perte en vies humaines et en matériel n'a été enregistrée du côté des forces gouvernementales. Mais Youssouf Hamid, le porte-parole de l'Union des forces de la résistance, UFR, a démenti l'information. « Ce n'est pas la réalité du terrain », a-t-il déclaré. La France a annoncé avoir procédé à des frappes aériennes contre une colonne de pick-up venue de Libye 2 fois cette semaine, à la demande de N'Djamena. Selon l'état-major français, ces frappes ont mis hors de combat une 20aine de pick-up sur la 50aine que comptait la colonne initialement. L'UFR est le groupe armé à l'origine d'une tentative de putsch en 2008, stoppée in extremis aux portes du palais présidentiel de N'Djamena grâce à l'appui de l'allié français. Mercredi, ces éléments étaient toujours aux alentours de Bao, dans le nord-est, selon Mamad Doki Worou, un cadre de l'UFR, qui affirme que parmi les 20 pick-up détruits, 15 étaient ceux de civils et 5 de combattants de l'UFR.
Au Nigeria, l'armée a été sommée de rester impartiale pour les prochaines élections générales avec l'interdiction de porter l'uniforme pour les soldats qui ne seront pas de service le jour du scrutin. Au moins 4 personnes ont été tuées depuis lundi dans la région du sud-ouest du Cameroun. Parmi les victimes, 2 étudiants qui s'étaient opposés au fonctionnement des établissements scolaires dans les régions anglophones. De nombreuses personnes ont été interpellées ce mercredi. Les séparatistes ont décidé d'imposer à Boya 10 jours de ville morte pour empêcher la tenue le 11 février de la fête nationale de la jeunesse. Les États-Unis ont mis un terme à plusieurs programmes d'aide militaire et sécuritaire au Cameroun. Washington invoque des accusations de graves violations des droits humains de la part des forces de sécurité camerounaises. L'ensemble de l'aide supprimée représente plus de 17 millions de dollars selon une chaîne de télévision américaine. L'affaire baptisée Madoff, béninoise. Un tribunal spécial, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de Porto Novo, a condamné aujourd'hui à 10 ans de prison ferme les principaux responsables de ce scandale financier qui a touché plus de 150 000 personnes. Le point avec la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le procès ICC Service, après plus d'un mois, a enfin situé les Béninois. Selon le verdict final, la Cour acquitte les promoteurs et autres responsables de cette structure illégale de placement d'argent pour les faits d'association de malfaiteurs, mais les condamne pour escroquerie. Plus de 300 000 Béninois ont été spoliés pour un montant total estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. Ce procès a révélé l'implication du gouvernement Yahya Boni, accusé d'avoir cautionné ce système d'escroquerie et d'avoir pactisé avec les responsables d'ICC Services. Les responsables au nombre de 4 sont condamnés à 10 ans d'emprisonnement ferme et à payer chacun 12 millions de francs CFA d'amende. La Cour donne également le dégel de 252 millions consignés au greffe, des 275 millions consignés au trésor public, la vente de plus de 150 immeubles appartenant aux promoteurs, les frais issus de la vente des plus de 150 immeubles et autres sommes consignées ça et là serviront à rembourser les spoliés de ICC Services. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Nouveau cas de la fièvre de Lassa en Guinée. Les services de santé ont été mis en alerte après le décès d'un homme atteint de cette fièvre qui a fait au moins 16 morts au Nigeria depuis début janvier. Le président Sierra Leone, Julius Mada Bio, a décrété aujourd'hui l'urgence nationale contre les viols et les agressions sexuelles. Selon des statistiques de la police, le nombre a doublé en un an, atteignant plus de 8500 l'an dernier. Les victimes sont des femmes et des enfants, parfois très jeunes. Des centaines de Soudanais se sont rassemblés aujourd'hui dans le centre de Khartoum pour protester contre la détention de manifestants incarcérés depuis le début de la contestation antigouvernementale en décembre. Au Soudan du Sud, l'opposant Lam Akol, signataire de l'accord de paix de septembre 2018, est rentré aujourd'hui à Djouba. Il avait fui en août 2016 après des combats meurtriers dans la capitale entre troupes gouvernementales et rebelles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France a rappelé son ambassadeur en Italie pour consultation après une série de déclarations anti-françaises de responsables italiens. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La France a fait, depuis plusieurs mois, l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de déclarations outrancières, a déclaré Agnès von der Mühle, porte-parole du Quai d'Orsay. La rencontre mardi en France du vice-premier ministre italien Luigi Di Maio avec les gilets jaunes mobilisés depuis plusieurs semaines contre le président Emmanuel Macron a fait déborder le vase. M. Di Maio a annoncé sur les réseaux sociaux avoir rencontré des responsables des gilets jaunes en concluant, je cite, « Le vent du changement a franchi les Alpes ». Cette rencontre a fait suite à une série de ses propos, tout comme ceux du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini contre l'exécutif français. M. Salvini a dit espérer que le peuple français se libère bientôt de son président. Le ministre de l'Intérieur italien tente d'organiser un front européen de l'extrême droite contre les pro-européens incarnés, entre autres, par Emmanuel Macron en vue du scrutin du 26 mai. La campagne pour les élections européennes ne saurait justifier le manque de respect de chaque peuple ou de sa démocratie, a affirmé le Quai d'Orsay.
L'Afrique sera au cœur du prochain G7 plutôt. La France qui accueille la rencontre en août entend notamment mettre l'accent sur le développement économique de l'Afrique avec par exemple un soutien à l'entrepreneuriat africain, notamment féminin. Ici aux États-Unis, le sujet des déclarations d'impôts du président Trump préoccupe les démocrates. Un comité de la Chambre des représentants tient une audience aujourd'hui, une première étape dans un processus qui pourrait amener le panel à examiner de plus près les informations fiscales du président Donald Trump. Les précisions de John Lindon.
Les démocrates, qui ont la majorité à la Chambre des représentants, ont lancé plusieurs enquêtes pour examiner les intérêts financiers du président Trump, question de déterminer si cela peut conduire à certaines décisions politiques. Aux États-Unis, les déclarations d'impôts sur le revenu sont confidentielles, mais la Chambre peut obtenir la déclaration de revenus de quiconque. La question des impôts de Donald Trump perdure depuis sa campagne présidentielle. Le président américain s'est toujours abstenu de rendre publiques ses déclarations d'impôts comme l'ont fait la plupart de ses prédécesseurs. Il conteste les efforts des démocrates pour regarder de près ses finances personnelles et a qualifié la démarche de harcèlement. De nombreuses autres enquêtes sont en cours ou pourraient être lancées. Dans son discours sur l'état de l'Union mardi, Donald Trump a qualifié ses investigations d'enquêtes partisanes ridicules.
Le ministre de la Justice nommé par le président Donald Trump, Bill Barr, a franchi aujourd'hui une étape décisive dans son processus de confirmation en obtenant le feu vert de la commission judiciaire du Sénat. Un vote devrait rapidement intervenir en séance plénière. Les Républicains ayant au Sénat une majorité, il est quasi assuré de faire son retour au gouvernement américain plus de 25 ans après avoir été le ministre de la Justice du président George H.W. Bush. Le gouverneur du Nouveau-Mexique a ordonné le retrait de la majorité des gardes nationaux stationnés à la frontière entre cet État américain et le Mexique. Elle qualifie de mascarade les mises en garde du président Donald Trump contre l'invasion de migrants et au Venezuela. Il est urgent d'accroître l'aide humanitaire, estime l'ONU. Les Nations Unies se tiennent prêtes à envoyer une aide d'urgence réclamée par Juan Guaido, reconnu président par intérim par une quarantaine de pays, mais elles ne pourront pas opérer tant que le pouvoir en place à Caracas ne donne pas son feu vert. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Muniteco avec Nanit Talani.
Le Cameroun a commercialisé 25 315 tonnes de café au cours de la campagne 2017-2018, soit une augmentation de près de 20% par rapport à 2016-2017. Selon l'Office national du café et du cacao, cette progression s'explique par un meilleur encadrement des producteurs. À titre d'exemple, l'installation d'une agence de cet office dans l'Adamawa a permis un meilleur suivi et un meilleur encadrement de la commercialisation dans cette localité. Total annonce avoir découvert un important gisement de condensat des hydrocarbures à l'état gazeux et liquide dans le bassin de l'Outeniqua en Afrique du Sud. Cela pourrait représenter un volume important de 1 milliard de barils, du gaz et des condensats. Pour le gouvernement de Pretoria, cette trouvaille peut être un coup de pouce potentiel à son économie en difficulté. La découverte doit être désormais confirmée par une campagne d'études sismiques puis le forage de 4 puits. Pour finir, le Botswana s'attend à un déficit budgétaire de 3,5% cette année, soit 7 milliards de poulas, la monnaie locale. Il sera financé par des emprunts sur les marchés locaux ou extérieurs, ainsi que par une réduction des réserves de trésorerie. Le ministère botswanais des Finances a également indiqué que la Chine a accepté de prêter 10 milliards de poulas au Botswana pour des projets d'immobilisation, une facilité qui n'exposerait pas le pays à un surendettement.
Dans votre page sportive de ce soir, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
D'abord sur le continent africain, l'Égypte va jouer sans Mo Salah en mars.
Mohamed Salah ne jouera pas le match contre le Niger et le match amical contre le Nigeria. Ahmed Eghazi sera aussi probablement écarté, a fait savoir le vice-président de la Fédération égyptienne de football, Ahmed Choubi. Pays hôte de la CAN 2019, l'Égypte achève les éliminatoires de la compétition par un déplacement sans enjeu au Niger le 22 mars prochain, avant de se rendre au Nigeria pour un match amical le 26 mars. Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur des Pharaons, Javier Aguirre, a prévu de donner sa chance à de nouvelles têtes tout en ménageant certains cadres comme Mohamed Salah et le taulier de la défense centrale Ahmed Eghazi.
Regard sur la Champions League, Yacouba, Moussa Wege a jeté sur la liste pour la Ligue des Champions. Il est au Barcelone.
Oui, arrivé au FC Barcelone l'été dernier, l'international sénégalais a été promu en équipe A pour la seconde moitié de la saison. Conséquence, alors que Moussa Wage était absent de la liste des joueurs inscrits pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, le Lyon de 20 ans fait son apparition sur celle pour les matchs à élimination directe de la C1 en compagnie du Ghanéen Kevin Prince-Boateng, recruté cet hiver. Le Barça affrontera Lyon les 19 février et 13 mars prochains en 8e de finale.
Et l'UEFA ne change pas de président, Yacouba.
Oui, le Slovène a été réélu lors du congrès de la Confédération européenne de football organisé à Rome. Alexander Seferin, 51 ans, avait été élu en septembre 2016 en remplacement de Michel Platini, suspendu de toute activité liée au football. Seul candidat en lice, il a été réélu par acclamation. On fera tout notre possible pour avoir le Mondial 2030 sur notre continent, 12 ans après le grand succès qu'a été la Coupe du Monde en Russie, a-t-il déclaré.
Enfin, le président du PSG nommé au comité exécutif de l'UEFA.
Nasser El Khelaifi a été désigné représentant des clubs au sein du comité exécutif de l'UEFA. Le patron qatari du PSG succède ainsi à Ivan Gazidi, ex-directeur général d'Arsenal et désormais directeur général de l'AC Milan. Son élection intervient alors que le PSG est toujours sous le coup d'une procédure menée par l'UEFA dans le cadre du fair play financier et sa désignation fait grincer quelques dents, notamment celle du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui estime que sa désignation viole toutes les règles de bonne gouvernance.
C'était des sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Que contient l'accord de Khartoum? Les Centrafricains n'ont pas jusque-là de réponse à cette question. Les voix continuent de s'élever pour exiger des autorités la publication du contenu de l'accord conclu à Khartoum, au Soudan, avec les chefs des 14 groupes armés du pays. Malgré la signature du accord hier à Bangui, les clauses ne sont dévoilées. La colère monte au sein de la population, comme le dit à Bangui, et pour VOA Afrique, notre correspondant Freeman Sipila.
Le flou entretenu par les autorités de Bangui autour de cet accord conclu avec les chefs des groupes armés inquiète plus d'un. Pourquoi ne veulent-ils pas publier au peuple souverain les clauses alors que l'accord est déjà signé, s'interrogent les uns. D'autres pensent quant à eux que le contenu reste encore un mystère. Dans les rues de la capitale, Bangui, le dit accord alimente les débats et les avis sont divergents.
Personnellement, je dis que pour signer cet accord avec les groupes rebelles, c'est pas normal.
Pour moi, je ne suis pas pour la simple raison que les dégâts des rebelles et groupes armés, tout ça, ça leur donne même pas ni minimum un petit droit pour enfin de pouvoir bénéficier d'un dialogue tel qu'il vient d'être effectué au Soudan.
Je crois que le gouvernement a été pris au piège. Le fait qu'on a institué l'embargo sur notre pays, le gouvernement doit passer par ces mesures-là pour permettre à ce qu'on puisse avoir la paix.
Le groupe de travail de la société civile menace d'appeler à des manifestations pacifiques d'ici à la semaine prochaine. Paul Cresson-Beninga, son porte-parole.
On ne peut que spéculer parce qu'on nous cache le contenu de cet accord, ce qui n'est pas normal. Et à l'heure où nous parlons, le groupe de travail de la société civile voudrait tout simplement demander au gouvernement de mettre à l'appréciation du peuple centrafricain le contenu de cet accord. Et si cela ne se fait pas, passer un délai normal, la semaine prochaine, nous allons appeler le peuple centrafricain dans la rue à manifester pacifiquement pour qu'on nous présente le contenu de l'accord, parce que ce n'est pas normal ce qui se passe.
Pour le député Martin Ziguélé, un des participants aux négociations de Khartoum, le contenu n'est pas encore rendu public, simplement parce que certains États de la sous-région ne l'ont pas encore signé. Il appelle à la patience.
Les parties signataires de l'accord se sont engagées à démarrer son application dès qu'il est parfait. Un accord est parfait lorsque l'ensemble des parties l'ont signé. L'ensemble des parties l'ont signé, il reste la signature d'un certain nombre de pays témoins. Il y a la signature de la MINUSCA, de l'Union africaine. Il y a la signature des institutions internationales qui vont permettre de faire en sorte que très rapidement, les mécanismes d'application de l'accord soient mis en place.
Que prévoit réellement cet accord? Quelles sont ses principales résolutions? Il est encore difficile de répondre à ces questions. Le chef de l'État centrafricain a déclaré lors de la cérémonie de signature du document ce 6 février à Bangui que l'accord est conclu dans le respect de la Constitution et des recommandations du Forum national de Bangui de mai 2015. Cet accord dit de paix et de réconciliation conclu après 10 jours de négociations à Khartoum au Soudan et signé ce 6 février à Bangui sera également signé le 11 février prochain à Addis Abeba par certains États de la sous-région impliqués dans la résolution de la crise centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Suite de notre série de reportages portraits des candidats à la présidentielle du 24 février au Sénégal, ce soir, vous découvrez Idrissa Seck, le challenger le plus expérimenté. Il est le candidat de l'opposition le plus connu et principal adversaire du président sortant Macky Sall. Fort de son expérience, il brigue la présidence sénégalaise pour la troisième fois après ses échecs de 2007-2012. Son portrait avec Seydina Abagué, notre correspondant à Dakar.
Idriss Seck a eu une riche carrière politique. Né en 1959, il est le directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade à la présidentielle de 1988, puis ministre du Commerce dans le gouvernement d'Union nationale en 1995. Cinq ans après, il est de nouveau directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade qui est élu pour un mandat de 7 ans en 2000. Idriss Seck est alors au cœur du régime libéral, ministre d'État, directeur de cabinet du président, puis premier ministre en novembre 2002. Il se fait l'avocat de la bonne gouvernance. Les résultats sont au rendez-vous avec des taux de croissance record de 6,68% en 2003 et 5,87% en 2004. Mais ses relations avec le président Wade se gâtent de manière spectaculaire. Il est accusé de vouloir succéder à son père spirituel. Certains parlent de coup d'état rampant. Le président Wade l'accuse même d'avoir fouillé son bulletin de santé. Malgré ses dénégations, il est limogé le 21 avril 2004.
Ils m'ont sali, ils ont raconté n'importe quoi, ils ont fait une propagande monstrueuse contre moi.
C'est la disgrâce qui ne s'arrête pas là. Idriss Seck est accusé d'avoir détourné des sommes folles dans l'affaire dite des chantiers de Thiès. Il est arrêté le 23 juillet 2005. La majorité parlementaire vote sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice pour détournement de fonds, corruption, faux et usage de faux, atteinte à la défense nationale et à la sûreté de l'État. Après plus de 6 mois à la prison de Rebus, il bénéficie d'un non-lieu. Il est libéré. Selon lui, ces moments sont les plus douloureux de sa carrière politique.
J'ai encore le souvenir frais de ma fille qui n'avait même pas 5 ans, 6 ans, qui est venue s'enlacer contre moi en me disant « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» J'en ai encore le souvenir.
Rester en prison et en sortir avec un non-lieu, ça lui a valu la sympathie de beaucoup de Sénégalais qui ont perçu sa détention comme injuste et arbitraire. Alors, il essaie de rebondir et va se présenter à la présidentielle de 2007 face à son mentor Abdoulaye Wade qui rempile pour un second mandat. Peu avant ces élections, le président Wade reçoit son fils spirituel au palais et va annoncer devant les caméras que Idriss Seck va revenir à la maison. Les conséquences sont retentissantes. Abdoulaye Wade passe au premier tour et Idriss Seck termine deuxième avec un peu plus de 14% des voix. Ce sera son meilleur score. En 2012, il n'a que 7% des suffrages, bien loin derrière le président élu Macky Sall. La relation entre les deux hommes restera plus que tendue. Macky Sall, le président sortant, est un ancien membre du PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade. Lui et Idriss Seck sont issus du même parti. Le président Sall a été premier ministre et président de l'Assemblée nationale. C'est donc un choc d'ambition, une dualité non avouée. Pour l'observateur politique Ibrahima Bahoum, Idriss Seck est l'adversaire le plus dangereux du président sortant.
D'abord, il a pris le temps de construire son réseau. Et depuis lors, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il pose des accusations solides, mais en plus, il a beaucoup de gens qui sont allés avec lui parmi les candidats qui avaient recalé par le parrainage. Jusqu'ici, on pense qu'il est très très fort, très positionné dans l'opinion. Et oui, avec tout ce qu'il a comme coalition, s'il fait une bonne campagne, il peut faire très mal.
Idriss Seck, bien avant l'an 2000, avait écrit sur son site idrissa.com qu'il sera le troisième président du Sénégal après Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Il a déjà fait 2 tentatives et peut-être est en train de jouer la carte de la dernière chance. Mais en politique, comme le dit l'adage, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais on saura au soir du 24 février avec la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, la principale université du pays, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, est depuis lundi en proie à une grève des enseignants, une grève qui mécontente les étudiants. Les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Ils ne sont pas contents, les étudiants de l'université de Cocody. La grève lancée lundi dernier par la CNEC, la Coordination Nationale des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs de Côte d'Ivoire, est pour eux une source de perturbation en cette période d'examen.
Moi, cette grève, je trouve ça anormal parce que vraiment, nous sommes en retard. Et cette grève, on nous dit que c'est une grève de 1 an. C'est anormal. Il faut que l'État trouve une solution adéquate face à cette situation pour qu'on puisse aller à l'école. On est fatigué.
Bon, ça nous pénalise beaucoup. On est en retard sur les autres. Ça nous arrange pas.
La grève nous ralentit dans notre bonne lancée. On attend que voilà, les choses se rétablissent pour qu'on puisse revenir sur les bancs et continuer voilà, ce que nous avons commencé.
Pour Johnson Kwasi Zamina, secrétaire général de la CNEC, le syndicat qui a appelé à la grève d'une durée d'un an, ce mouvement de protestation n'est que la conséquence d'une série de mesures prises par la direction de l'université.
Ce mouvement de grève fait suite à plusieurs remarques de nature à nous rétrograder. Des règlements qui sont en train de nous rabaisser. En tant qu'individu, en tant qu'enseignant, chercheur et chercheur, le président ne respecte pas ses engagements et ils créent des règlements intérieurs qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues de l'université.
Le président de l'université de Cocody balaie du revers de la main ses explications. Cette grève, dit-il, est en réalité liée à la question des heures complémentaires. On me combat parce que j'ai décidé de mettre de l'ordre dans cette pagaille, dit Abou Karamoko.
L'université Félix Fulbright est la seule université au monde où des gens réclament des heures complémentaires de ce niveau-là. La seule université au monde. Vous n'avez pas trouvé dans une université, en dehors de l'université Félix Fulbright, ces heures complémentaires réclamées par des personnes dans cette université-là. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis des dizaines d'années. Et j'ai décidé de mettre fin à cette pagaille, à cette tricherie-là, à grande échelle.
Le président Abou Karamoko dénonce par ailleurs les violences exercées sur la direction de l'université par les enseignants de la Sénèque le 17 décembre dernier.
Ce qu'ils ont fait, ce sont des violences. Ils me demandaient de faire l'effort pour payer les salaires avant la fin du mois de décembre, pour les fêtes. Si j'ai l'argent à ma disposition, pourquoi il n'y a pas payé? Et puis les primes de recherche, ça aussi c'est réglementé, c'est trimestriel. Mais on n'est même pas à la fin du trimestre quand ils viennent me demander de payer les primes de recherche avant les fêtes. Mais les primes de recherche, ce n'est pas pour faire des fêtes. Les primes de recherche, c'est pour faire de la recherche. Vous voyez un peu le ridicule.
Deux enseignants accusés de violence ont été suspendus de toute activité académique pour une période d'un an. Une période pendant laquelle les enseignants membres de la SENEC entendent rester en grève. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le Cameroun veut rendre obligatoire l'utilisation du bois légal sur son marché. Une campagne de sensibilisation initiée par le CIFOR, le Centre pour la Recherche Forestière Internationale, visant à réduire la vente du bois de sillage illégal au Cameroun, a pris fin ce jeudi. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Jules Tamp.
Dans la petite menuiserie du parc à bois de sillage au quartier Mangué, l'on travaille sans relâche. Il est 18h, mais deux ouvriers sont encore à la tâche pour livrer une commande de bois. Le parc à bois de Mangué est l'un des principaux de la capitale. On y vend des lattes, des chevrons, des planches et du bois de couffrage. 75 vendeurs ont été recensés ici.
C'est très difficile de vendre le bois légal au Cameroun.
Xavier Esso, vendeur de bois au parc du quartier Mangué à Yaoundé.
En vendant le bois légal, même un ministre, ça sera difficile pour lui de construire une maison. Déjà le bois légal, il n'y a pas de quantité suffisante. La demande est trop grande. Il y a beaucoup de vendeurs et peu de bois. Le bois légal qu'on vendait avant, il y avait une quantité suffisante pour la consommation locale. Aujourd'hui, il y a certains pays voisins qui viennent prendre le bois ici au Cameroun.
Difficile de vendre le bois légal au Cameroun, la vie est partagée par la majorité de vendeurs au quartier Mangué.
On ne change pas le comportement des consommateurs, des administrations comme ça en quelques mois.
Guillaume Lesculier, chercheur principal au CIFOR.
Au Cameroun, une partie importante du bois qui est exploité dans ces forêts va sur le marché domestique. Si vous voulez que la forêt soit gérée durablement, donc il faut convaincre les gens d'acheter du bois légal. C'est important si on veut que ce secteur contribue de manière pérenne à augmenter les niveaux de vie des populations rurales qui sont aujourd'hui encore pauvres dans les zones rurales du Cameroun.
Certes, les vendeurs de bois adhèrent au bien fondé de la campagne sur la vente de bois de sillage d'origine légale. Mais ils craignent aussi pour la survie de leur métier.
En vendant le bois légal, il y a beaucoup de personnes qui vont disparaître dans le marché.
Étienne Bocagné, vice-président de l'Association nationale du collectif des vendeurs de bois et assimilés du Cameroun.
Les doléances, c'est que si vraiment on peut multiplier les séries, qu'on simplifie la composition du dossier pour avoir les papiers pour vendre le bois légal.
Des doléances que le gouvernement camerounais dit avoir prises en compte rassurent Hortense Moutalindia, sous-directrice de la promotion du bois au ministère des Forêts et de la Faune.
Nous avons déjà, au niveau du ministère, l'attestation de valorisation des rebuts issus de l'exploitation forestière. C'est un canal qui va permettre aux petits exploitants de la filière de pouvoir rentrer en possession du bois d'origine légale et de le mettre sur le marché. On a aussi simplifié les procédures pour pouvoir permettre aux petits exploitants de pouvoir disposer des permis d'exploitation de bois d'œuvre.
Les modalités d'utilisation du bois légal au Cameroun sont en étude si elles sont validées et appliquées. Le Cameroun va être le premier pays d'Afrique centrale à rendre obligatoire l'utilisation du bois de sillage légal, a confié à VOA Afrique un expert de l'Union européenne. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sheikh. À la console, Justin. Wait. Justin. À la présentation, Eric Manirakis. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous. Chaque jour est une vie. Au revoir.
Bienvenue à bord.